le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Caroline Schrumpf de l'Église protestante unie de France à Nantes. Le pasteur Caroline Schrumpf nous invite à un mariage, les noces de Cana. L'expression « les noces de Cana » est désormais utilisée dans le langage courant. Qui n'a pas évoqué ce miracle quand à la fin d'un banquet, les convives n'ont plus que de l'eau à boire ? Au-delà du quotidien et de la banalité du mariage, à quoi peut nous renvoyer cette eau changée en vin ? Le propre d'un miracle, ce n'est pas qu'il se reproduise pour nous au XXIe siècle, mais que son évocation et sa lecture changent notre vie. C'est le propos du pasteur Caroline Schrumpf.
Bonjour. Quand nous nous rencontrons, c'est le premier mot que nous disons. Quand Dieu vient à notre rencontre, il nous dit aussi « bonjour » à sa manière à lui. Il nous dit « la grâce, le pardon, la liberté, je vous les donne » sur le seuil de ce culte, de cette journée, de cette semaine. En Jésus-Christ, je vous aime de toute éternité. Alors oui, bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous pour ce rendez-vous matinal du culte protestant. Que vous soyez habitué des cultes et de la prière, ou que vous veniez ici sur la pointe des pieds, incognito, tendez l'oreille et préparez vos cœurs. Pour nous tous, voici, Dieu vient.
Comme Jean-Baptiste, au fond de sa prison, tout au fond de moi, je t'ai posé la question. Est-ce vraiment toi, le Messie l'envoyé? Est-ce vraiment toi qui viens nous libérer?
Est-ce vraiment toi, le Messie, l'envoyé ? Est-ce vraiment toi qui viens à notre rencontre ce matin ? Cette question est souvent la nôtre. Oui, c'est bien lui, le Dieu qui nous libère et qui nous aime. Il est là, il nous attend, il nous invite à entrer en conversation avec lui. Et nous, qui sommes-nous ? Et où sommes-nous ? Souvent, notre esprit vagabonde, nos pensées s'échappent, les soucis nous envahissent et nous voilà loin, loin de Dieu, loin de nous-mêmes, désorientés, perdus. Alors, voilà le temps pour revenir et nous mettre à l'écoute avec sincérité, pour alléger nos épaules des fardeaux trop lourds à porter. Voici le temps pour libérer notre cœur des soucis qui l'emprisonnent. Ensemble, reprenons le chemin vers Dieu notre Père, le chemin simple de la prière. Dieu, mon Dieu, ouvre en moi un espace de lumière, chassant mes ténèbres. Ouvre en moi un espace de courage, chassant ma peur. Ouvre en moi un espace d'espérance, chassant mes doutes. Ouvre en moi un espace de force, chassant ma faiblesse. Ouvre en moi un espace de vulnérabilité, chassant mon orgueil. Ouvre en moi un espace d'amour, chassant ma haine. Ouvre en moi un espace de pardon, chassant mes fautes. Ouvre en moi, Seigneur, un espace pour toi, un abri, un lieu sûr. Amen.
Si les étoiles tombe du ciel, si le soleil ne revoit le jour, si les montagnes s'effondrent autour de moi, je reste à l'abri de son amour.
Avant d'ouvrir la Bible, préparons-nous. Dieu notre Père, nous allons lire la Bible, un livre ancien, souvent difficile à comprendre pour nous. Aide-nous à y entendre ta parole et que nous la mettions au centre de notre vie. Qu'elle soit pour nous non seulement source d'information, mais aussi source de transformation. Qu'elle ravive notre confiance et nous fortifie dans nos responsabilités, nos engagements. Que ta parole guérisse ce qui est malade ou blessé en nous. Conduis-nous dans la joie d'une existence apaisée. Ta parole ressuscite les morts et donne la vie en abondance, qu'elle ouvre les tombeaux de nos cœurs pour que nous devenions vraiment vivants. À qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Ce matin, nous plongeons dans l'évangile de Jean et nous lisons le début du chapitre 2. Le troisième jour, il y eut un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit « Les gens n'ont plus de vin ». Jésus lui répond « Mère, qu'est-ce que tu me veux ? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands vases de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se purifier selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez ces vases avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui emportent. Le responsable goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les vases le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire, et ses disciples croient en lui. Ce matin, en lisant l'Évangile, nous voilà transportés à Cana, une petite bourgade dans les collines de Galilée, pas très loin de Nazareth. Et nous devenons les témoins de ce premier des signes étonnants de Jésus. De l'eau changée en vin. Et pas seulement une bouteille ou deux, non. 6 vases d'une 100 litres chacun, donc 600 litres de bon vin. C'est un signe évidemment qui plaît particulièrement à ceux d'entre nous qui apprécient une bonne bouteille. Et c'est un récit que nous lisons souvent, lors des mariages, bien sûr. Cette histoire a inspiré de nombreux peintres et elle a même, figurez-vous, une page sur Facebook. Cette page a pour titre « Jésus changeait l'eau en vin, tu m'étonnes que 12 mecs le suivaient partout ». Un groupe plutôt humoristique qui rassemble quand même 223 745 membres. Cette histoire du mariage à Cana est une histoire étonnante. Et quand on y réfléchit, l'évangile de Jean commence d'une manière étonnante le récit du ministère, de l'action publique de Jésus. Parce qu'à Cana, Jésus ne guérit personne, il ne ressuscite personne, il ne calme pas de tempête, ni ne donne à manger à une foule sans ressources. Dans ce récit, personne ne semble en danger de mort, d'exclusion, de naufrage. C'est une histoire banale, une fête de mariage, qui pour une raison inconnue, sans doute par une mauvaise organisation, risque de tourner court par manque de vin. Bien sûr, pour les mariés, pour l'organisateur du repas, sur le moment, on frôle la catastrophe. Les invités vont être mécontents, la fête restera dans les mémoires comme une fête écourtée, c'est-à-dire une fête ratée. Mais, en y réfléchissant, ce n'est qu'une fête. Et si les convives finissent la fête un peu moins ivres, ce n'est quand même pas si grave. Alors oui, on pourrait s'étonner à juste titre que Jean commence son évangile par un signe qui semble à première vue si mondain, si peu spirituel, si peu existentiel. En fait, Où est vraiment le signe? Est-ce que Jésus a seulement voulu prolonger la fête pour lui-même et les invités? Boire encore un peu, s'enivrer encore? Si on le comprend ainsi, c'est une page à interdire absolument à nos groupes de jeunes, d'aumônerie ou de cathé. Jésus qui encourage à boire, quel exemple! Non, le signe doit être ailleurs, plus subtil. Il nous faut chercher, creuser l'histoire. Ce signe de Cana, on pourrait dire aussi miracle, est le premier des signes que Jésus fait dans l'évangile de Jean. Alors que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, racontent une quinzaine, voire une vingtaine de miracles, Jean n'en garde que sept, comme s'il voulait retenir l'essentiel. Donc, ce signe de Cana, c'est un signe important, capital même, puisqu'il est le premier, le récit d'ouverture. En fait, ce récit fonctionne un peu comme le jeu des erreurs que l'on trouve dans les magazines de jeunesse. Dans un dessin, il faut repérer les erreurs, c'est-à-dire les indices ou les objets qui ne sont pas à leur place, qui sont d'un autre temps, d'une autre époque. Par exemple, dans une représentation de l'Antiquité romaine, un personnage porte une montre à son poignet et un autre tapote sur son téléphone portable. Dans le récit de Cana, il y a, à mon avis, au moins six indices incongrus qui se sont glissés. Peut-être justement pour attirer notre attention, pour aiguiser notre regard, notre écoute et notre réflexion. Les avez-vous trouvés? Marie, d'abord, la mère du Christ. Elle a vu ce qui se passe, elle a vu le vin qui manque, et voilà qu'elle donne des ordres, comme si elle était la maîtresse de maison. Jésus, qui la rabroue assez brutalement, puis finalement, il semble obéir à ce que Marie lui suggère. Jésus, toujours, qui est un invité parmi d'autres, le voilà qui se met lui aussi à donner des ordres aux serviteurs. Les serviteurs obéissent à Jésus sans rien dire et suivent toutes ses instructions à la lettre. Les récipients que ces serviteurs utilisent ne sont pas du tout prévus pour l'eau potable, mais pour l'eau des rituels de purification religieuse. Et enfin, évidemment, l'eau qui a été puisée est devenue un vin délicieux. Alors oui, comme souvent, Jésus nous invite à regarder plus loin que nos habitudes, que nos idées toutes faites, que notre regard en surface. Alors où est le signe? Et quelle bonne nouvelle nous annonce-t-il? Une première chose, Jésus n'a pas boudé cette noce. Cette fête de l'amour humain. Il n'a pas prétexté un rendez-vous plus religieux, une réunion de prière, un séminaire de formation ou une convention missionnaire. Non, il a participé à la noce. Il lui a même donné une dimension surprenante. 600 litres d'un grand cru. Une surabondance inouïe. Un cadeau de mariage incroyable. Et aussi un signe incognito. En tout cas pour les mariés et les invités. Seuls les serviteurs sont au courant de ce qui arrive. Le signe de Cana nous dit que Dieu ne se détourne pas de nos joies, de nos fêtes, des moments importants de nos vies personnelles ou familiales. Il est attentif aux besoins des hommes et des femmes que nous sommes. Il nourrit notre joie de manière discrète, inattendue et généreuse. Et ceux qui voudraient nous faire croire que, pour être pieux, il faut être sérieux, triste, au pain et à l'eau, se trompe. La troisième demande du Notre Père, cette prière essentielle pour tous les chrétiens, dit ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans notre langue française, nous avons la chance de pouvoir jouer sur les différentes manières d'écrire le mot « fête ». Bien sûr, dans le Notre Père, à la suite de Jésus, nous demandons au Père de faire, c'est-à-dire d'accomplir, sa volonté sur la terre. Mais je crois, un peu comme un clin d'œil, que nous pouvons aussi lui demander que ta volonté soit faite, avec un accent circonflexe. Que ta volonté soit une fête, à l'image de la fête de Cana en Galilée. En allant un pas plus loin, il me semble que ce signe de Cana peut faire sens pour nous, comme une invitation. Comme si nous aussi nous étions invités à nous placer dans le rôle des serviteurs, ceux qui voient ce qui se passe en coulisses, ceux vers qui Jésus vient et qui se mettent humblement, simplement, à son écoute et à son service, avec une confiance surprenante. Les vases sont vides, Jésus ordonne de les remplir d'eau et d'y puiser. Et ce qui survient est alors totalement incroyable. Ces vases servaient d'habitude aux nombreux rites de purification du quotidien, le matin, au lever, avant et après les repas. Tous ces rites du judaïsme, mais qui représentent en fait tous ceux par lesquels nous, les êtres humains, nous cherchons à paraître purs, justes et acceptables devant Dieu, tous ces rituels par lesquels nous essayons de nous approcher de Dieu, de lui montrer notre bonne volonté, notre obéissance, notre désir de suivre ses commandements, avec une vraie sincérité. Mais nous le savons aussi, celui qui enfreint un seul commandement a enfreint toute la loi. Lorsque nous sommes en vérité face à nous-mêmes, nous mesurons bien que toutes ces tentatives, tous nos rites et toutes nos purifications pour nous concilier les bonnes grâces de Dieu sont illusoires et vaines. Et que ce n'est pas seulement au lever, au coucher, avant et après les repas qu'il nous faut purifier nos vies, nos mains, nos pensées, nos cœurs, pour oser nous approcher de Dieu. Mais à chaque instant, à chaque seconde, à chaque nanoseconde, tant il nous est facile de nous écarter du projet de Dieu et de nous laisser entraîner du côté obscur. Remplissez d'eau ces vases, dit Jésus. Je vais en faire quelque chose que vous n'imaginez pas. Nous aussi, nous sommes appelés à apporter à Jésus les vases, les jarres de nos vieilles habitudes, de nos rituels religieux ou sociaux, reconnaître nos manques, tous ces moments dans nos vies où nous n'avons plus de vin, plus d'énergie, plus d'espérance, plus de confiance en nous ou en la vie, tout simplement. Reconnaître le manque et le vide. Reconnaître la sécheresse de nos cœurs, le poids de nos peurs. Remplissez d'eau ces vases et puisez, dit Jésus. Lorsque nous accueillons cette parole de Jésus, et lorsque nous y répondons, en lui apportant réellement ce que nous sommes, nos attentes de Dieu, même si ces attentes sont maladroites, hésitantes, impures, même si cela nous semble inadéquat, impropre, comme ces vases pour la purification, Jésus nous étonnera avec le vin, le grand cru de la joie. Enfin, et ce sera la troisième étape de notre parcours ce matin, ce signe de Cana est pour nous, pour chacun de nous qui écoutons ce culte. Pour nous qui sommes devant Dieu, avec nos attentes comme ces jarres vides, avec l'eau plate que nous avons à notre disposition, rien d'extraordinaire, notre quotidien, nos forces, nos faiblesses, nos talents, nos manquements. Oui, la promesse de Cana, elle est pour nous. Lorsque nous nous laissons rejoindre, comme les serviteurs, lorsque nous recevons la parole de Jésus et que nous y répondons avec simplicité, avec confiance, alors survient pour nous et pour ceux qui sont autour de nous le vin de la joie, de la reconnaissance, une surabondance totalement inattendue. Après avoir dit « remplissez, puisez », Jésus ajoute « portez-en aux autres ». Parce que ce vin-là, on ne le boit pas seul, en cachette. Ce n'est pas un vin qui nous détourne des autres, c'est une joie profonde, imprenable. Parce que nous savons que cette joie vient de Dieu et qu'elle se partage. À Cana, Dieu nous rejoint, dans nos vies imparfaites, mais pardonnées et transformées par sa présence. À Cana, la puissance de Dieu se manifeste dans ce signe de l'eau devenue du vin. Une puissance cachée dans l'incognito, dans le quotidien de nos existences humaines, dans le banal d'une fête de mariage. Dans nos vies et dans le monde, Dieu agit par une puissance qui choisit souvent de se cacher dans la faiblesse, dans la simplicité, dans notre humanité. Comme un nouveau-né dans une mangeoire, comme un condamné cloué sur une croix. Ce matin, les cris du monde nous rejoignent et nous ne pouvons pas rester insensibles aux angoisses qui nous traversent comme elles traversent aussi notre pays, nos concitoyens, toute notre humanité. Violence, incertitude devant l'avenir et tous les déséquilibres que nous connaissons autour de nous et en nous. Et nous voilà avec ce signe de Cana, l'eau changée en vin. Ça pourrait sembler quand même décalé, presque indécent. Mais c'est un signe qui nous parle avant tout d'espérance, de confiance et d'audace. Espérance dans la présence de Dieu au cœur de nos vies. Confiance lorsqu'il nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Et audace, audace pour accueillir sa générosité, sa joie surabondante, la transformation qu'il veut pour nous et pour le monde. À Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Il a changé la tristesse en joie. Il a changé les vieilles habitudes en jours de fête. Il a changé la mort en vie nouvelle. À Cana, Jésus a changé l'eau en vin, et ce ne fut pas en vain. Amen.
He turned the water into wine. He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around. They said that he turned the water into wine. And he walked upon the Sea of Galilee. He walked upon the Sea of Galilee. Shouted far and wide, he calmed the raging tide and walked upon the Sea of Galilee. He turned the water into wine, didn't my Lord now? He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around that he turned the water into wine. He fed the hungry multitude. He fed the hungry multitude. With a little bit of fish and bread, they said everyone was fed. He fed the hungry multitude. He turned the water into wine, didn't the carpenter from Nazareth? He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around that he turned the water into wine. He turned the water into wine.
Unis les uns aux autres, nous prions les uns pour les autres. Seigneur Jésus, les noces de Cana, voilà une page que j'aime dans ton évangile. Tu y parais si proche, si humain et bon avec ceux qui sont autour de toi. Les invités n'ont plus de vin et, avec l'aide des serviteurs, le tour est joué. L'eau devient un grand cru. Comme c'est ton premier signe, ton premier miracle, on en veut d'autres. Et beaucoup de nos contemporains espèrent que tu interviennes de la même manière dans leur vie, encore aujourd'hui. mais tu n'es pas un magicien. Tu es le sauveur du monde. Alors, nous te confions ce monde. Tu es celui qui nous sort de nos impasses. Alors, nous te confions tous ceux qui se sentent dans des impasses. Tu es celui qui nous accueille avec nos manques, notre quotidien chaotant, tiraillé entre joie et doute, mais jamais pleinement heureux. Alors nous te confions ceux qui cherchent le bonheur et la paix. Apprends-nous à nous tourner vers toi et les choses changeront. Aide-nous à grandir dans notre confiance en toi et dans notre générosité envers les autres. Viens remplir nos cœurs. Fais de l'eau plate de nos vies un vin nouveau et que nous sachions le porter aux autres autour de nous et partager avec eux l'espérance et la joie de ton royaume. Amen. Ce moment de culte s'achève maintenant, mais le chemin avec Dieu continue, là où nous sommes. Que le Christ accompagne chaque minute de ce dimanche, chaque rencontre, chaque discussion, qu'il illumine par sa présence cette journée et notre vie tout entière. C'est ma prière pour chacun.
Du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Merci au pasteur Caroline Schrumpf. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation, Thomas Jost, à la prise de son, Jean-Michel Bernot. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, notre adresse postale, le 47 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Restez sur France Culture. Dès 9h, vous retrouvez le journal de la rédaction, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.